Bonjour Sophie Laurence et bienvenue à Fréquence Mistral pour votre temps d'émission, une toute nouvelle émission sur la poésie dont vous allez nous parler chaque mois, une fois par mois, le lundi, en général le premier lundi de chaque mois, de 17h à 17h45. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de Nazim Hikmet. Bonjour Sophie. Bonjour.
Alors c'est lui qui parle, hein. C'est lui qui fait son autobiographie. Voilà ce qu'il dit. Je suis née en 1903. Je ne suis jamais revenue dans ma ville natale. Je n'aime pas les retours. À l'âge de 3 ans à Alep, je fis profession de petit-fils de Pacha. À 19 ans, d'étudiant à l'université communiste à Moscou. À 49 ans, à Moscou, d'invité au comité central. Et depuis ma 14e année, j'exerce le métier de poète. Il est des gens qui connaissent les diverses variétés de poissons, moi, celle des séparations. Il est des gens qui peuvent citer par cœur le nom des étoiles, moi, ceux des nostalgies. J'ai été locataire et des prisons et des grands hôtels. J'ai connu la faim et aussi la grève de la faim. Et il n'est pas de mets dont j'ignore le goût. Quand j'ai atteint 30 ans, on a voulu me pendre. À ma 40e année, on a voulu me donner le prix mondial de la paix. Et on me l'a donné. Au cours de mes 39e année, j'ai parcouru en 6 mois 4 mètres carrés de béton. Dans les 59e année, j'ai volé à Prague et de Prague à la Havane en 18 heures. Oui. Je n'ai pas vu Lénine, mais j'ai monté la garde près de son catafalque en 1914. En 1961, le mausolée que je visite, ce sont ses livres. Non, je me suis trompée. Ah, 1914, 1924. Oui, il a été blessé en 1922. Il a fini par en mourir. On s'est efforcé de me détacher de mon parti, ça n'a pas marché. Je n'ai pas été écrasée sous les idoles qui tombaient. En 1951, sur une mer, avec un jeune camarade, j'ai marché vers la mort. En 1952, le cœur fêlé allongé sur le dos, 4 mois, j'ai attendu la mort. J'ai été fou de jalousie des femmes que j'ai aimées. Je n'ai même pas envié Charlot pour un iota. J'ai trompé mes femmes. Je n'ai jamais médit sur le dos de mes amis. J'ai bu sans devenir ivrogne. Par bonheur, j'ai toujours gagné mon pain à la sueur de mon front. Si j'ai menti, c'est qu'il m'est arrivé d'avoir honte pour autrui. J'ai menti pour ne pas peiner un autre, mais j'ai aussi menti sans raison. J'ai pris le train, l'avion, l'automobile. La plupart des gens ne peuvent le faire. Je suis allée à l'opéra. La plupart des gens ne peuvent y aller et en ignorent même le nom. Mais là où vont la plupart des gens, je n'y suis pas allée depuis 1921. À la mosquée, à l'église, à la synagogue, au temple, chez le sorcier. Mais j'ai lu quelquefois dans le marc de café. On m'imprime dans 30 ou 40 langues, mais en Turquie, je suis interdite dans ma propre langue. Je n'ai pas eu de cancer jusqu'à présent, on n'est pas obligé de l'avoir. Je ne serai pas premier ministre, etc. Je n'ai aucun penchant pour ce genre d'occupation. Je n'ai pas fait la guerre. Je ne suis pas descendu la nuit dans les abris. Je n'étais pas sur les routes d'exode, sous les avions volants en rase-motte. Mais à l'approche de la soixantaine, je suis tombé amoureux. Bref. Camarades, aujourd'hui à Berlin, crevant de nostalgie comme un chien, je peux dire que j'ai vécu comme un homme. Mais qui sait combien il me reste encore à vivre et ce qui pourra m'arriver. 11 septembre 1961, Berlin-Est. Voilà, c'était plus mieux que ce soit lui qui parle.
Donc c'était un extrait de son autobiographie.
Son autobiographie, voilà, il est mort 2 ans après. Il est mort à Moscou. Et donc, il a eu, avec ses années, parce qu'en tout, il a fait à peu près une quinzaine d'années de prison. Donc ça l'a beaucoup rendu malade. Il avait une angine de poitrine qui n'était pas du tout soignée. Donc il a fini par mourir de ça, quoi. Son cœur a lâché. Voilà, donc, mais c'est un immense poète qui avait un cœur immense aussi, très très d'une grande tendresse pour l'humanité, pour les peuples peuple turc. Il a écrit un livre magnifique sur ça, sur les peuples qui prennent le train, les femmes qui se soignent les pieds, qu'elles se marchent pieds nus, se soignent les pieds en se collant du mastic, elles marchent comme ça. Enfin, il raconte des choses vraiment extraordinaires sur le peuple turc. Voilà. Donc, il a aussi beaucoup raconté sur d'autres peuples. Et Philippe Sopo, qui est un très grand poète aussi, surtout surréaliste, il dit de lui que Nazım Hikmet, son œuvre, c'est la légende du siècle, de notre siècle. Aucun poète de notre époque n'aura su, comme lui, exprimer de cette angoisse qui nous étreint au cours de l'ère atomique et où notre seule défense est la confiance que nous accordons, que nous devons accorder encore à l'homme. Voilà cette confiance nécessaire. Le poète nous la propose. Davantage même, nous l'impose. Voilà, donc c'est justement, il y a un poème. Voilà, un jour à Rome, sous le régime de Mussolini, il s'est trouvé là, il cherchait une petite chambre, il l'a trouvée dans un quartier, dans le quartier populaire, une chambre très pauvre. Et la femme qui lui montrait la chambre lui a dit, il y avait quelqu'un qui était dans cette chambre. Elle a dit, oui, c'était un homme d'un abyssin qui venait d'Éthiopie, donc, et qui, il était là il y a 2 jours, ouais. Et alors, elle lui dit, ah bon, mais il a été emmené, il a été pris on l'a emmené, voilà, en prison, on l'a emmené. Bon, elle n'a plus rien dit, elle avait très peur qu'il ne prenne pas la chambre. Et lui, il a décidé au contraire de la prendre. Et quand il s'est trouvé dans cette chambre tout seul, il sentait l'autre, il sentait cet abyssin, il imaginait tout ce qu'il regardait, le plafond, les petites choses dans le plafond, tous les défauts du mur, tout ça. Il s'imaginait cet homme. Et en ouvrant un tiroir d'une table, il a trouvé 7 lettres. Lettre de cet abyssin adressée à sa femme, Taranta Babu. Voilà une de ses lettres. Alors, ce poème s'appelle « Vivre ». Pense, Taranta Babu, le cœur, la tête et le bras de l'homme fouillant les entrailles de la terre ont créé de tels dieux d'acier aux yeux de feu qu'ils peuvent écraser la terre d'un coup de poing. L'arbre qui donne des grenades une fois par an peut en donner 1000 fois plus. Si grand, si beau est notre monde et si vaste le bord des mers, que nous pouvons tous, chaque nuit, nous allongeant, côte à côte sur les sables d'or, chanter les eaux étoilées. Oh, que c'est beau de vivre, Taranta Babu, que c'est beau de vivre, comprenant le mode comme un livre, le sentant comme un chant d'amour, s'étonnant comme un enfant. Vivre! Vivre un à un et tous ensemble, comme on tisse une étoffe de soie. Vivre comme on chante en chœur un hymne à la joie. Vivre et pourtant, quelle drôle d'affaire, Taranta Babu. Quelle drôle d'histoire, que cette chose incroyablement belle, que cette chose indiciblement joyeuse soit tellement dure aujourd'hui, tellement étroite, tellement sanglante, tellement dégoûtante. Voilà une de ses lettres adressées. C'était, je crois, la dernière lettre qu'il avait pu écrire. Donc, il avait été abandonné dans la table et lui, il a disparu, sans doute, assassiné. Voilà, donc, il était un étudiant en art à Rome.
Donc, oui, est-ce qu'on écoute une chanson?
Ah oui, bien sûr.
Oui,
oui, oui, très bien.
Allez.
Les chants des hommes sont plus beaux qu'eux-mêmes, plus lourds d'espoir, plus tristes, plus durables. Plus que les hommes, j'ai aimé leurs chants. J'ai pu vivre sans les hommes, jamais sans les chants. Arrivé d'être infidèle à ma bien-aimée, jamais au chant que j'ai chanté pour elle. Jamais non plus les chants ne m'ont trompé. Quel que soit leur langage, j'ai toujours compris tous les chants. Rien en ce monde de tout ce que j'ai pu boire et manger, de tous les pays où j'ai voyagé, de tout ce que j'ai pu voir et entendre, de tout ce que j'ai pu toucher et comprendre, rien ne m'a rendu jamais aussi heureux que les chants.
Donc nous venons d'entendre un poème de Nazım Hikmet, dont la musique était de Sem Karaca. On enchaîne avec une autre poésie de Nazım.
Oui, Nazım aimait beaucoup sa femme. Il a eu un petit garçon qui s'appelait Mehmet. Et là, il lui dit une berceuse. Il dit à sa femme, une berceuse. Mon âme, ferme les yeux tout doucement. Et comme on s'enfonce dans l'eau, plonge dans le sommeil nu et vêtu de blanc. Le plus beau des rêves t'attend. Do-do. Mon âme, ferme les yeux tout doucement et abandonne-toi comme au creux de mes bras. Do-do. Dans ton sommeil, ne m'oublie pas. Do-do. Ferme les yeux tout doucement. Tes yeux verts marron où brûle une flamme. Do-do, mon âme. Do-do.
Merci Sophie pour cette jolie berceuse.
Il n'y a pas la musique, bien sûr, mais les poèmes de Nazim se chantaient beaucoup. Et lorsqu'il était en prison, c'était un homme extraordinaire dans les prisons parce qu'il s'occupait de tous les prisonniers, Il était tout le temps, comme il était très instruit, qu'il avait beaucoup de connaissances, aussi bien en dessin, en peinture, il enseignait aux prisonniers tout ce qu'il pouvait. Donc il était très aimé, même des gardiens qui savaient ses poèmes par cœur. Parce qu'il les entendait dire, il les disait aux prisonniers, parce que cette prison turque, c'était assez abominable, c'était une grande misère, très très grande misère. Donc il essayait d'apporter aux autres tout ce qu'il pouvait de lui-même. Et il a énormément apporté, il a même révélé un grand peintre turc, qui était prisonnier aussi. Donc il y a beaucoup d'artistes en fait, beaucoup de poètes. Et il s'occupait d'un journal, on s'en est occupé de plusieurs. Et peu à peu, ses journaux étaient interdits, ses amis aussi emprisonnés. Enfin, la répression permanente. Il était très souvent arrêté, emprisonné. Et il a même été une fois emprisonné sur un bateau. Souvent les pontons avec le soleil qui darde. Et on l'avait mis dans un tonneau d'excréments. On l'a laissé 24 heures et il a chanté sans arrêt ses poèmes. Voilà. C'est fou, non?
Mais oui.
Et ça, bien sûr, on l'admirait malgré tout, même si on le réprimait, on l'étouffait. Et il y avait quand même beaucoup de. Autour de lui, il arrivait à créer autour de lui de l'amour, quoi. C'était étonnant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas oublier cet être et sa poésie qui est magnifique, quoi. Qui est toute simple, mais très. Savante. Il connaissait le persan, il connaissait les poèmes, le Roubaix, tous ces poèmes. Et il avait aussi, quand il était enfant, il avait un parent qui était derviche tourneur.
Ah oui.
Ouais. Mmh. Donc son père l'emmenait voir ces derviches tourneurs et la poésie lui est venue comme ça. Donc c'est. On peut dire tellement de choses de ce qui. Mais lui-même, il a beaucoup voyagé parce que s'il n'était pas en prison. Il restait quelques jours chez lui, puis il fallait qu'il parte en exil. On le chassait. Mmh. Ou tu vas en prison, ou tu vas en exil. Donc il a fait que voyager. Et heureusement, il a été beaucoup accueilli en Union soviétique à l'époque où les étudiants étrangers étaient très accueillis. Il y avait énormément d'efforts de fait. C'est d'ailleurs beaucoup de ses amis étaient des étudiants qu'il a rencontrés en université à Moscou. Donc c'est d'où vient un peu tout ça. Il a découvert la lutte, Karl Marx, il a découvert tout ça et il n'en a jamais été assez, il n'a jamais eu assez et il n'a pas lâché malgré tout ce qu'on lui a fait faire, tout ce qu'on lui a fait vivre. Voilà.
Un autre poème.
Oui, alors un autre poème, c'est on pourrait justement La promenade du soir, peut-être ce serait joli, La promenade du soir. Parce que ça calmerait un peu. Parce qu'il a des moments de paix extraordinaires, des moments de joie aussi. Parce qu'il avait la joie en lui, tout le temps. Voilà, c'est. Voilà. Donc, tu es sorti de la prison. Hein? Et tout de suite, tu as rendu ta femme enceinte. Tu la prends par le bras. Et le soir, tu te promènes dans le quartier. Le ventre de la dame atteint presque son nez. Avec grâce, elle porte son fardeau sacré. Tu es fière et orgueilleuse. Il fait froid. Une fraîcheur pareille à celle des bébés lorsqu'ils ont les mains glacées. Tu as envie de les serrer dans tes mains pour les réchauffer. Devant la porte du boucher rôdent tous les chats du quartier et la femme frisée du deuxième étage, étalant ses mamelles au bord de la fenêtre, contemple la soirée. Le ciel est tout propre, à peine éclairé, et l'on voit au milieu l'étoile du berger, étincelante comme un verre d'eau. L'été de la Saint-Martin, cette année, a duré longtemps. Si les mûriers jaunissent, les figuiers sont encore verdoyants. Le typographe Rafik, avec la fille aînée du laitier Yorgi, se balade au crépuscule. Leurs doigts sont entrelacés. Les lampes de l'épicier Karabet sont allumées. Le citoyen arménien n'a jamais pardonné que l'on ait égorgé son père sur la montagne kurde. Mais il t'aime, parce que toi non plus tu n'as point pardonné à ceux qui ont marqué de cette tache noire le front du peuple turc. Les tuberculeux du quartier, ceux qui ont rivé à leur lit, qui sont là rivés, regardent derrière les vitres. Le fils chômeur de la laveuse Yuhuri, la tristesse sur les épaules, va au café. La radio de Rami Bey répand les dernières nouvelles. Un pays lointain, dans l'Asie lointaine, les faces jaunes comme la lune, lutte contre un dragon blanc. On a envoyé les tiens là-bas, 4500 exemplaires de Mehmet, pour assassiner leurs frères. Ton visage rougit de honte et de colère. Une tristesse, non pas une tristesse vague, mais une tristesse qui t'appartient. Une tristesse, les mains et les bras ligotés, comme si on l'avait bousculé, ta femme, par derrière, qu'on l'avait fait tomber à terre et qu'elle avait perdu son enfant. Ou bien comme si tu étais encore en prison et qu'alors, par des gendarmes paysans, l'on faisait matraquer les paysans captifs. Tout à coup, la nuit est tombée. La promenade du soir est terminée. Une jeep de la police au coin de votre rue a tourné. Ta femme a chuchoté. Est-ce pour nous ? Voilà une ambiance... Lui aussi n'acceptait pas le génocide arménien, n'acceptait pas. Il y avait pas. Beaucoup de Turcs ne l'acceptaient pas. Mmh. Voilà, donc il a eu donc cet mélange de... Il a écrit de très beaux poèmes sur Paris, sur la Pologne aussi où il est allé, sur Prague. Il a fait beaucoup de voyages et... Chaque fois, il a laissé des œuvres sur ces villes qu'il a visitées. Il écrivait à sa femme. Là, c'est une lettre d'Istanbul de sa femme. Mon chéri, je t'écris de mon lit. Je suis lasse. Je me suis regardée dans la glace. Je suis verdâtre. Il fait froid. Dis. L'été ne reviendra-t-il jamais ? Le bois de la semaine, on le paye 30 livres. Et que faire ? Il y a quelques jours, je travaillais dans le couloir. J'ai dû poser une couverture sur mes épaules. Les carreaux de nos fenêtres sont cassés. Les portes ne veulent plus fermer. Il nous faudrait déménager. Sinon, cette maison va crouler sur nos têtes. Mais ils sont abominablement chers, les loyers. Pourquoi t'écrire tout cela qui te fera de la peine ? Mais à qui ? Mais à qui parler de ma détresse ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pardon, chérie. Dis, quand fera-t-il beau ? La nuit surtout, c'est trop. Je ne veux plus toujours trembler de froid. Dans mes rêves, c'est en Afrique que je me vois. Une fois, c'est l'Algérie. Comme il faisait bon. Une balle a troué mon front, tout mon sang a coulé, mais je n'étais pas morte. Je suis vieille, toute vieille, et tu le sais, je n'ai pas encore 40 ans. Je suis vieille, Je le sais, je le dis. Et quand je le dis, les gens se fâchent et me font de la morale. N'en parlons plus, n'en parlons plus. On a filmé La Cigale. Il paraît qu'à Paris, le film a beaucoup plu. Cette pauvre femme avait-elle tous les torts? Qu'en dis-tu? Moi, j'aime le docteur, mais en même temps, j'en veux à cet imbécile. À la fin du compte, qui donc est le plus malheureux? Qui et par qui la faute de qui? J'écoute à la radio les chansons du Paraguay. Elles sont écrites sur une feuille criblée d'épines, avec l'amour, le soleil et la sueur des hommes, amères et pleines d'espoir. Que j'aime les chansons du Paraguay. J'ai reçu une lettre d'Advillée. Elle dit qu'elle s'ennuie de moi et ne peut m'oublier. J'en suis toute surprise, depuis longtemps, depuis que tu t'es enfui du pays. Elle n'a pas frappé une fois à ma porte. Elle n'a cherché à rien savoir de moi. Même quand elle m'a rencontré dans la rue un matin de fête, elle a passé son chemin, elle a détourné la tête. Nous étions les amis les plus intimes qu'on puisse voir. Mais l'amitié est pareille aux arbres. Une fois desséchée, elle ne reverdit plus. Je ne lui ai pas répondu. À quoi bon? Si elle venait à la maison, je n'aurais plus rien à dire. Je ne la hais pas, non. Oh non. Qu'elle soit heureuse. Il paraît qu'elle a épousé un riche malade, un maniaque. Et Advie est si pleine de vie, quel dommage. Je suis allée contempler notre fils. Rose et blond, il dort les poings fermés. J'ai ramené sur lui la couverture qu'il avait rejetée. Ce soir, la radio a donné une mauvaise nouvelle. Irène Joliot-Curie est morte. Elle était jeune encore, n'est-ce pas? J'ai lu il y a longtemps déjà un livre sur sa mère, la mère de la morte. Il parlait de deux jeunes filles. Je revois la page, on les comparait à deux blondes statues grecques. Et voilà, une de ces fillettes est morte. Je ne sais pas bien t'expliquer, une savante illustre, oui. Mais ce qui vient de mourir de leucémie, c'est cette petite fille blonde aussi. Ce soir, j'ai pleuré Irène Joliot-Curie. C'est bizarre, Irène. Si on lui avait dit, Irène, quand tu mourras, une femme d'Istanbul, une femme que tu ne connais pas, aura beaucoup de peine. Si on le lui disait que j'ai pleuré, elle en serait tout étonnée. Je me suis rappelé son mari, je me suis demandé, est-ce que je lui ai écrit? Mais j'ignorais son adresse. Frédéric Joliot-Curie, Paris, est-ce que cela aurait suffi? Un écrivain français est mort aussi, j'ai lu cela dans les journaux, je suis sûre que tu ne connais pas son nom, il était vieux, depuis longtemps, et puis égoïste et cynique, un homme méprisable. Pendant toute sa vie, il s'est moqué de tout, il n'a rien aimé ni personne que les chiens et les chats. Même pas, seulement ses chiens et ses chats. Quelques jours avant de mourir, il a donné une interview encore, il se moquait de la mort. Mais on voyait qu'il en avait une peur affreuse. Sa photographie apparut, il ressemble à notre grand-mère. Suppose qu'elle soit un homme, et pour lui, un bonnet sur la tête, le voilà. Un vieillard ratatiné dans une solitude terrible, de lui aussi mon cœur a pris pitié. Mais cette peine n'était pas la même peine. Irène Joliot-Curie. Tu penses à ses enfants, tu penses à son mari, mais surtout, avant tout, tu as pitié du monde. Un grand homme n'est plus. Voici pour toi maintenant une bonne surprise. Ton paresseux de fils apprend à lire. Il sait déjà beaucoup de mots, ce petit diable. Tiens, cours, le livre, le crayon, le cartable. C'est magnifique, non? Chaque lettre qu'il découvre, il la compare. A, c'est une maison. B, c'est un ventre, un gros monsieur. T, une pioche. J'ai tellement peur que tu ne sois paresseux, qu'il ne soit paresseux. Hein? Si j'étais une petite fille ou une fille, ce serait plus facile. Ah, chaque âge de la vie, une femme fait quelque chose de ses doigts. Mais un garçon de 5 ans, s'il ne faisait plus froid, s'il faisait beau, il fera beau, il fera beau. Ma lettre s'est étirée. Prends soin de ta santé. Réponds-moi vite. Ne m'oublie pas. Réponds-moi vite. Ne te console pas en te disant que Munever est une femme intelligente et courageuse et qu'elle aura Elle saura bien se tirer d'affaire. Je suis perdue sans toi. Ne m'oublie pas. Prends soin de ta santé. J'embrasse tes yeux, chérie. Bonne nuit. Prends soin de ta santé. Réponds-moi vite. Ne garde pas dans ta tête mes soucis. Oublie mes soucis. Ne m'oublie pas. Ce poème a été écrit en turc par Nazim et il a été traduit par lui-même en français. Voilà, donc...
On va mettre une pause musicale.
Pourquoi pas ?
Les Travailleurs de la mer, c'est une musique d'Islande.
Oui, des chansons populaires anciennes d'Islande.
On écoute « Il y a de belles filles partout ».
C'est moi qui frappe à votre porte. Ici comme ailleurs, à toutes les portes. Ne vous effrayez pas, si je reste invisible, on ne peut voir une petite morte. J'étais ici voici 10 ans déjà, j'ai trouvé la mort à Hiroshima. Je ne suis qu'une enfant, je n'avais que 7 ans, mais les enfants morts ne grandissent pas. Mes longs cheveux tout d'abord ont pris feu. Mes mains ont brûlé tout comme mes yeux. Mon corps ne fut plus rien qu'une poignée de cendres mêlée au vent dans un ciel nuageux. Je ne veux rien de vous en vérité. Pour moi, nul ne peut plus me dorloter. Car l'enfant qui brûla comme papier journal vos bonbons jamais ne pourra goûter. Je frappe à la porte. Écoutez-moi, donc, et de votre nom, faites-moi le don, afin que l'on ne tue les enfants désormais, qu'ils puissent toujours goûter les bonbons. Le pêcheur japonais que tu as, le nuage sur l'océan, fut un jeune homme. Ses amis m'ont chanté l'histoire en témoignage sur le Pacifique un soir jaune. De ce poisson pêché, celui qui mange meurt, qui touche à notre main périt, comme un long cercueil noir, voici notre steamer qui s'y embarque, perd la vie. De ce poisson pêché, celui qui mange meurt, non pas subitement, mais de lente nécrose. La chair pourrie se décompose. De ce poisson pêché, celui qui mange meurt. Qui touche à notre main périt, nos mains salées, baignées de soleil et de sable, nos mains, fidèles mains, au travail inlassable. Qui touche à notre main périt, non pas subitement, mais de lente nécrose, la chair pourrie se décompose, qui touche à notre main périt. Ma belle aux yeux d'amande, il faut que tu m'oublies. Voici notre steamer, cercueil noir et glacé, qui s'y embarque, perd la vie. Juste au-dessous de nous, le nuage a glissé. Ma belle, aux yeux d'amande, il faut que tu m'oublies. Ma belle, il ne faut m'embrasser, de moi à toi la mort pourrait passer. Ma belle, aux yeux d'amande, il faut que tu m'oublies. Voici notre steamer, un cercueil noir et froid. Ma belle aux yeux d'amande, il faut que tu m'oublies. L'enfant que tu auras de moi sera plus pourri que les œufs pourris. Notre steamer, comme un cercueil noir, nous emporte. Cette mer est une mer morte. Homme, où êtes-vous? Homme, vers vous, je crie. Un poème aux enfants, un poème d'enfants, pour les enfants d'un grand enfant, Nazim Hikmet.
Dernier poème donc pour cette émission.
Voilà. La naissance. Ma mère m'a donné un fils. Non, pardon. Très bien, je me trompe. C'est sa mère m'a donné un fils. Un garçon blond dépourvu de sourcils, une boule de lumière enfouie dans ses langes bleues, qui ne pèse que 3 kilos. Quand mon fils est né, des enfants sont nés en Corée. Ils étaient pareils à des tournesols. MacArthur les a fauchés. Ils sont partis encore inassouvis du lait maternel. Quand mon fils est né, des enfants sont venus au monde dans les prisons de Grèce. Leurs pères furent fusillés. Et comme si c'était la chose la première à contempler sur terre, ils ont vu des barreaux. Quand mon fils est né, des enfants sont nés en Anatolie. C'étaient des bébés aux yeux noirs, aux yeux bleus, aux yeux marrons. Dès leur enfance, ils étaient couverts de poux. Qui sait combien d'entre eux, par miracle, survivront ? Quand mon fils est né, Des enfants sont nés dans les plus grands pays du monde et tout de suite ils étaient heureux. Quand mon fils atteindra mon âge, moi je ne serai plus de ce monde-ci, mais ce monde sera comme un berceau superbe, un berceau qui bercera dans ses langes de soie bleue tous les enfants, noirs, jaunes, blancs.
Sophie Laurence, merci. Nous nous retrouverons donc le premier lundi de chaque mois, de 17h à 18h, où vous viendrez, comme vous l'avez fait aujourd'hui, gentiment, de venir nous parler, nous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, Nazim Hikmet. Le mois prochain, vous avez choisi de nous parler de...
Baudelaire.
De Charles Baudelaire.
Charles Baudelaire.
Donc vous nous ferez...
Ça alternera comme ça.
Voilà. Donc, eh bien, voilà, c'était une première émission sur Fréquence Mistral de poésie. Et je vous remercie de nous faire découvrir ou redécouvrir ces poètes.
Merci beaucoup, au revoir.